9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et nous voilà avec Vincent Duluc, qui est journaliste à L'Équipe, spécialiste dans le football, écrivain. Il publie chez Plon un dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, écrivez-vous, Vincent Duluc, c'est ce qu'il restera du football quand nous aurons oublié tout le reste. Une jolie déclaration. Je précise que vous êtes actuellement au Qatar, d'où le bruit que nous allons entendre. Hein, c'est le bruit de la clim. Alors, est-ce que c'est une Coupe du Monde à la hauteur de toutes celles que vous avez connues jusqu'à présent, depuis celle de 86 au Mexique? Est-ce que la Coupe du Monde au Qatar, avec sa climatisation, est digne de figurer dans votre dictionnaire?
Ah, c'est une Coupe du Monde différente. C'est une Coupe du Monde sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. C'est une Coupe du Monde qui perturbe un peu nos repères, déjà dans l'espace, parce que c'est la première fois qu'on a l'impression que finalement, de suivre une Coupe du Monde à Disneyland, tout est dans un rayon de 20 km. On passe d'une attraction à l'autre. On a l'impression que c'est plutôt Disneyland en Floride, parce qu'effectivement la climatisation est partout, contrairement à ce qu'on nous a dit. Elle est également dans les stades, et le sport moderne pour les suiveurs et pour les spectateurs, c'est de surtout pas oublier la petite laine pour les soirées, parce que on est complètement frigorifié. Donc c'est vraiment une Coupe du Monde très différente. Et pour être un peu plus sérieux, même si le sujet de la climatisation de la Coupe du Monde est un sujet très sérieux, mais c'est aussi une Coupe du Monde d'une atmosphère différente, parce que c'est la Coupe du Monde des pays arabes. C'est quelque chose qu'on ressent vraiment. Il y a une ferveur autour de toutes les équipes arabes dans cette Coupe du Monde qui nous change effectivement de la polarisation de l'histoire de la Coupe du Monde sur les nations sud-américaines et européennes. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre qui transforme un petit peu l'atmosphère.
Vous étiez assez circonspect au moment d'écrire votre dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde, en parlant du Qatar qui était encore à venir. Vous disiez que de rassembler des supporters de 32 pays, de les regrouper pendant un mois sur un territoire grand comme la Gironde, pour l'essentiel un désert, en leur interdisant de boire de l'alcool et d'avoir des relations sexuelles hors du mariage, ça ne vous semblait pas une très bonne idée? Verdict final?
Je pense toujours que c'est pas une bonne idée, parce que c'est une décision qui a été prise pour des mauvaises raisons, évidemment. Le Qatar a voulu l'organiser dans le cadre de son soft power à coup de milliards, et pour le coup, l'organisation de la Coupe du Monde lui aura coûté sans doute au-delà de 200 milliards d'euros. Et on lui a donné aussi grâce à ce pouvoir financier, mais effectivement, ça correspond pas à sa culture profonde. D'ailleurs, les Qataris eux-mêmes ne sont pas passionnés par la Coupe du Monde ni par leur équipe nationale. Au match d'ouverture, ils sont partis à peu près à la moitié du match. Ça ne les intéressait pas. Le stade était un peu loin et ils voulaient rentrer chez eux. Donc voilà, donc il faut compter un peu sur soi-même, sur les supporters pour rendre cette Coupe du Monde joyeuse. Alors il se trouve quand même que beaucoup de supporters ne sont pas là. On voit très bien que notamment les supporters qui suivent en général les équipes européennes ne sont pas venus. Il y en a à peu près 5 à 6 fois moins. Mais en revanche, ils peuvent être partout. Ce qui fait que tous les stades sont quand même remplis et que les flux sont rendus possibles. Ce qui est vrai, c'est que la bonne surprise, c'est que c'est très bien organisé et que les flux de supporters sont vraiment bien organisés. Ils ont fait en sorte que les routes ne soient plus occupées. Ils ont dit aux gens qui travaillaient, c'est-à-dire plutôt les non-qatariens, de rester chez eux et d'être en télétravail. Ils ont fermé les écoles pendant un mois pour éviter que les parents mènent les enfants à l'école le matin ou les ramènent le soir et que ça occupe les routes. Donc globalement, ils sont quand même à la hauteur de la responsabilité qu'ils avaient sur ce plan-là.
La France est tenante du titre, elle est championne du monde, mais elle est aussi le pays qui a fourni le plus grand nombre de joueurs de Coupe du Monde au XXIe siècle. C'est vous qui me l'avez appris dans votre dictionnaire. Vous avez fait les calculs pour la Coupe du Monde de 2018. 52 joueurs étaient nés et avaient été formés en France. 9 avaient joué pour la Tunisie, 8 pour le Maroc, 8 pour le Sénégal, 3 pour le Portugal, 1 pour l'Argentine. Les autres, évidemment, jouaient pour la France. Nous sommes vraiment devenus une grande nation football.
Ah, nous sommes devenus surtout une nation métissée avec des origines diverses, et le football fait la différence entre la nationalité véritable et la nationalité sportive. C'est-à-dire que tous ces joueurs qui représentent des pays étrangers ont en général évidemment le passeport français puisqu'ils sont nés en France. Donc simplement ils font un choix à un moment donné d'une nationalité sportive, parfois après avoir porté eux-mêmes le maillot de l'équipe de France, soit en sélection jeune, soit même dans la grande équipe de France, puisque tant qu'on ne joue pas des matchs de compétition pour l'Euro ou pour la Coupe du Monde, on a le droit de changer de nationalité sportive. Donc voilà, je pense que ça reflète surtout le métissage de la société française, mais aussi sa capacité à former des jeunes joueurs via les centres de formation, sachant qu'évidemment, qu'aujourd'hui, on constate que la plupart des joueurs de très haut niveau ils viennent des grands bassins de population. Et là, en équipe de France, on n'est pas à la moitié, mais on n'est pas loin de la moitié de joueurs qui sont originaires de la région parisienne. Et c'est le cas aussi de la plupart de ces joueurs nés en France qui représentent une sélection étrangère à la Coupe du Monde.
On fait une pause, Vincent Duluc. On se retrouve tout de suite après. On continue de parler de la Coupe du Monde et de votre amour de la Coupe du Monde.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Vincent Duluc, il est journaliste à l'équipe. Il publie un dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde et il est dans la salle de presse. Il y a donc un bruit de climatisation, une climatisation très forte au Qatar. Vous dites dans votre dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde, Vincent Duluc, que pendant longtemps, les Français ont inventé les grandes compétitions de football pour que les autres les gagnent. La Coupe du Monde, c'est nous qui l'avons inventée, les Coupes d'Europe aussi ?
Alors, les Coupes d'Europe de foot, absolument. C'est le quotidien de l'équipe qui a eu l'idée des Coupes d'Europe et qui les a fondées, qui a provoqué la première réunion à Paris avec les clubs européens, qui a rédigé le premier règlement. Donc c'est vraiment la Coupe d'Europe de foot, c'est l'équipe qui l'a inventée. Les dirigeants français, évidemment, on le sait, ont inventé les Jeux Olympiques modernes à travers le baron de Coubertin. Et pour la Coupe du Monde 1930, il y a eu deux actions de dirigeants français qui ont été très marquantes. Celle de Jules Rimet, qui était à l'époque le président de la FIFA, du football mondial, et celle de Henri Delaunay, qui était un peu son Richelieu ou son Mazarin, et qui faisait tout le boulot, et qui a eu moins de lauriers que Jules Rimet, mais sans doute un peu plus d'importance. Et ce sont ces deux hommes-là, avec l'appui de deux ou trois autres Européens, qui ont lancé la première Coupe du Monde en 1930. Donc effectivement, pendant très longtemps, nous avons créé des compétitions pour que les autres la gagnent. Alors en Coupe du Monde, on s'est rattrapé, on en a quand même gagné deux depuis. Et on va dire qu'en Coupe d'Europe, en 67 ans de Coupe d'Europe, on n'en a gagné qu'une. Donc là, c'était vraiment pour les autres, Voilà, un geste généreux.
Longtemps, ce sont en effet nos défaites que l'on a fêtées. Les Français sont souvent grands dans la défaite. Hein. C'est dans le football comme dans le reste. En 1976, les Verts de Saint-Étienne ont descendu l'avenue des Champs-Élysées sous les acclamations alors qu'ils avaient perdu la veille en finale de Coupe d'Europe contre le Bayern de Munich.
Oui, absolument. Longtemps, il y a eu une romantisation de la défaite en France. Mais on va dire que ce n'était pas tant par amour de la défaite que parce qu'on n'avait pas le choix, puisqu'on ne gagnait jamais. Donc il fallait bien célébrer, nos sommets. Et il se trouve que nos sommets étaient nos défaites. Le Grand Reims, dans les années 50, avait perdu deux fois en finale de la Coupe d'Europe. Saint-Étienne, donc en 76, avait perdu. Et le lendemain, effectivement, avait descendu les Champs-Élysées. Mais évidemment, la défaite la plus célèbre de l'histoire du foot français, c'est évidemment la nuit de Séville en 1982. Quand l'équipe de France de Platini, après que Schumacher ait agressé Battiston, a perdu au tir au but en demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Et c'est vrai que sous le vernis un peu de l'injustice, de la cruauté, du mauvais sort, il y a, c'est vrai, une espèce d'esthétisation de la défaite qui est quand même assez française et qui explique finalement, la révolution qu'on a vécue en 1998, quand tout à coup on est devenu... On est devenu une nation qui pouvait gagner au foot. Et là, on en a tous été un peu perturbés.
Maintenant qu'on s'est habitué à gagner, on ne sait plus trop comment fêter ça. Vous racontez la descente des Champs-Élysées des Bleus en 2018. C'est une vraie bérésina. Hein. Et quand ils arrivent enfin à l'Élysée, il n'y a rien à manger. Et ils ont même fini par oublier leur Coupe du Monde dans le bureau d'Emmanuel Macron.
Oui, mais ça, c'est absolument incroyable. Ils descendent des Champs-Élysées en 12 minutes, alors qu'en 1998, ça leur aurait pris plusieurs heures. Donc, ils frustrent à peu près les centaines de milliers de personnes qui étaient venues. Il se trouve en plus que le sieur Benalla est à l'avant du bus et qu'on a l'impression que tout vient de lui. Lui dira plus tard qu'il a voulu freiner le bus, qu'ils sont arrivés beaucoup trop tôt à l'Élysée. Le président n'était pas prêt, il a fallu les faire attendre dans le bus. Et effectivement, après, il y a la réception. Ils montent dans le bureau du président. À un moment, le président leur dit bon, « Écoutez, messieurs, bah, passez une bonne soirée sur l'air de « j'ai quand même autre chose à faire, j'ai un vrai métier ». Et là-dessus, les Bleus commencent à avoir faim, ils se rendent compte que rien n'est prévu. On leur dit on peut vous faire des sandwichs, mais alors à ce moment-là, il faut aller dans l'annexe de l'autre côté de la rue. Donc ils traversent la rue, ils sont champions du monde depuis la veille. Ils vont manger 4 sandwichs, après ils se séparent un peu dans la nuit. Et le lendemain matin, le conseiller au sport du président Macron reçoit un coup de fil du président qui lui dit « écoutez, l'équipe de France n'aurait pas oublié quelque chose dans mon bureau hier soir. » Donc effectivement, c'était une soirée assez cocasse, oui.
On a quelquefois des petites coupures de réception, mais c'est normal, vous êtes loin, vous êtes au Qatar. On est en train de parler par l'intermédiaire d'Internet. Dernière question, Vincent Duluc, vous racontez aussi dans votre dictionnaire amoureux la place des femmes des joueurs de l'équipe de France en 58. Ce serait leur arrivée juste avant la demi-finale contre le Brésil qui aurait déstabilisé les tricolores. En 98, elles sont soudain devenues célèbres. En 2002, elles prenaient plus de place que leur mari. Et en 2010, on a dit que tout était de leur faute.
Oui, absolument. Au départ, il y avait une espèce de... Pas d'exotisme, mais en 58, clairement, Europe 1 et l'équipe avaient affrété un avion pour les femmes de joueurs. Et c'était intégré à la narration de cette épopée un peu unique du sport français de l'après-guerre. Ensuite, effectivement, les footballeurs ont commencé à rejoindre les magazines à papier glacé, à changer un peu à ne plus être que dans la presse spécialisée et sportive. Et leurs compagnes, qui étaient parfois célèbres, les ont accompagnées, puisqu'à l'époque, Fabien Barthez est avec le mannequin Linda Evangelista, Vicente Lizarazu avec la chanteuse Elsa, et Christian Carambeu avec Adriana. Donc effectivement, tout à coup, les femmes de footballeurs deviennent glamour. Mais en 2002, effectivement, ça devient un peu n'importe quoi parce qu'elles sont un peu trop centrales. Et je me souviens que, comme analyste de la défaite, Roger Lemaire, que j'avais rencontré plusieurs années après, m'avait dit « Mon problème, c'est que j'avais perdu l'harmonie chez les femmes. » Comme quoi, effectivement, les raisons de la victoire ou de la défaite peuvent être étranges.
Dernière question, vous pensez que la France peut gagner cette Coupe du Monde au Qatar ?
Très franchement, si la poisse continue à leur tenir compagnie dans ces proportions, ça va être très difficile. Et si l'équipe de France perd un joueur à chaque match et un joueur important, ça va devenir compliqué. Il n'y a pas vraiment de règles en la matière. Ce qui compte, c'est toujours la même chose dans une Coupe du Monde. Il faut arriver à construire une force collective en très peu de temps. Et cette force collective, par définition, elle est supérieure à la somme des talents et elle est assez difficile à... C'est assez difficile d'imaginer ce qu'elle va être au fil des matchs. Donc, je trouve que là, il se passe quelque chose dans le groupe, que malgré l'absence de Benzema, ou plutôt que l'absence de Benzema a permis de concentrer la lumière sur Kylian Mbappé, et comme il adore ça, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, et que voilà, cette équipe, finalement, elle est assez complète. Alors, elle est sans doute moins forte que le Brésil, même moins forte que l'Espagne, mais il reste, si tout va bien, encore 3 semaines de compétition et peut-être qu'il peut lui arriver quelque chose de très sympa. Oui.
Merci Vincent Duluc.
Un grand merci
Frédéric. Je renvoie à la lecture de votre livre Dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde. Ça vient de paraître chez Plon. On fait une pause, on se retrouve juste après. On va parler de l'amour, mais pas du football, des pierres précieuses.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.